Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Les philosophes aussi ont leurs secrets. Certains cocasses, d'autres honteux, d'autres encore inavouables. Le secret de Maurice Blanchot n'est pas d'avoir collaboré pour des revues d'extrême droite avant la Seconde Guerre mondiale. Cela, aujourd'hui, tout le monde le sait. Mais c'est d'avoir toujours refusé d'en parler et de le penser. Tout en écrivant de nombreuses pages sur la responsabilité de l'intellectuel face à son temps et, ironie de l'histoire, sur l'importance du silence et du secret dans l'acte même d'écrire. Alors à quoi bon revenir sur son passé quand il est si facile d'oublier ?
Ne reviens pas sur ton passé, crie halte là, à moi tu es, car c'est ta vie dont il s'agit, elle ne regarde que toi. Il ne faut jamais revenir, laisse tes photos, tes souvenirs, ça sert que dalle et ça fait mal, tu te vieillis, pourquoi? Comme un journal trop vieux, qui rit des événements, la vie ne veut que ceux qui vivent dans le présent te regardent pas dans toutes les glaces. Regarde les cieux des filles qui passent et dans ce bleu, c'est merveilleux. Tu as 20 ans maintenant. Mets ton chapeau derrière la tête et rentre dans la fête. Ne reviens plus sur ton passé, il faut l'enterrer. Ne reviens pas sur ton passé.
Bonjour Michel Suria.
Bonjour.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie et merci d'être avec nous depuis les studios de France Bleu Haute-Normandie.
Les gens ne croient que ce qu'ils voient est des malheurs, ça les laisse froid. Ils sont l'esprit à leur...
Vous dirigez les éditions Ligne et la revue Ligne. Vous avez beaucoup écrit sur Georges Bataille et vous avez fait paraître en 2015 L'autre Blanchot, l'écriture de jour, l'écriture de nuit. Chez Gallimard, un ouvrage dans lequel vous ne proposez ni un réquisitoire contre les actions de Blanchot, ni une défense, mais une réflexion sur la conséquence pour la pensée qu'a pu avoir de tels actes qui sont peut-être devenus secrets, à savoir collaborer pour des revues d'extrême droite avant le début de la Seconde Guerre mondiale.
Oui, Maurice Blanchot, puisque vous avez évoqué la revue Ligne et les éditions Ligne, enfin essentiellement la revue Ligne, Blanchot s'est constamment montré amical avec la revue Ligne, et Ligne bien évidemment amical avec Maurice Blanchot. Nous avons publié avec son assentiment tout le temps de sa vie, c'est-à-dire de 1987 où la revue est née jusqu'à 2003 où il a disparu, des textes nombreux de lui, tous les textes qu'on voit reparaître aujourd'hui, notamment les textes sur la guerre d'Algérie, sur au moment du manifeste des 121, les textes qu'il a écrits dans le cadre du comité Action étudiant intellectuel en 68. Donc c'est un cheminement assez long que nous avons fait ensemble, mais longtemps, et nous avons consacré d'ailleurs à Maurice Blanchot un premier numéro dès 1990, ensuite un autre à Dionys Mascolo dans lequel il y a là aussi encore beaucoup de textes de Blanchot qui n'avaient jamais été réédités. Et moi-même, à la fin, j'ai publié des textes politiques de Blanchot avec son assentiment très peu de temps avant sa disparition, mais des textes politiques de l'après-guerre. La question des textes politiques de Maurice Blanchot d'avant la guerre me préoccupe depuis que j'ai écrit la biographie de Bataille. Je voulais essayer de comprendre comment ces deux hommes avaient pu se lier si étroitement durant le temps de la guerre, quand l'un venait de l'extrême gauche radicale ou révolutionnaire, Bataille donc, et Maurice Blanchot de l'extrême droite. On m'avait indiqué des textes. Je me permets de vous reprendre, on connaissait très mal, très peu, l'existence de tels textes. On n'en connaissait qu'une infime partie grâce à une revue qui s'appelait Gramma, qui en avait publié quelques-uns. Blanchot ne s'y était d'ailleurs pas opposé. Mais j'en ai découvert beaucoup d'autres, tous ceux qui l'avaient publié dans une revue particulièrement virulente, qui s'appelait L'Insurgé.
Oui, c'est aujourd'hui, je disais, tout le monde le sait, aujourd'hui ce n'est plus
oui,
un secret.
Voilà, ça a été très long. Et on a très vite voulu mettre en débat cette question, parce que ce qui intéressait Ligne, et l'intéresse toujours, et m'intéresse tout particulièrement, c'est bien évidemment les généalogies intellectuelles. Comment se constituent-elles ? De quoi hérite-t-on quand on hérite de la littérature de Maurice Blanchot et de sa pensée pour l'immense part de celle-ci, quand un résidu, un reliquat, une séquelle est secrète, comme vous le dites ? C'est très terriblement difficile, d'abord parce que beaucoup de gens s'y sont opposés parmi les proches de Blanchot.
qui voyaient cela. À quoi se sont-ils opposés, du coup, à la republication de ces textes?
Il faut être clair là-dessus aussi. Maurice Blanchot lui-même s'y est opposé, tout le temps. Et même avait laissé des dispositions testamentaires qui n'ont pas été respectées, par lesquelles il stipulait que ceci ne devait pas être réédité. Aujourd'hui, tout est disponible, comme il souhaitait d'ailleurs qu'aucune correspondance soit publiée, et beaucoup de correspondances paraissent. Là, c'est quelque chose s'est passé qui a rendu, mais qui intéresse véritablement le sujet de votre émission, qui rend public quelque chose qui était fait à ses yeux pour rester secret. Les amis, c'est-à-dire essentiellement Jacques Derrida, Monique Anthelme aussi, l'épouse de Robert Anthelme, y étaient infiniment réticents, pensant que c'était certainement lui porter tort, pour une part, elle me l'a dit plus d'une fois, et apporter de l'eau au moulin des ennemis de Blanchot. Il y en avait, je reviendrai peut-être tout à l'heure pourquoi il pouvait y en avoir, mais ce qui me paraissait important, c'est que justement cette question de ces textes, cette question de ce qu'un homme avait été avant la guerre, de ce qu'il sera après la guerre, de la virulence en un sens politique avant la guerre, passant, changeant d'exposant, passant à une virulence d'extrême gauche après la guerre, pouvait se constituer dans le temps d'une histoire, qui est le temps d'une histoire intellectuelle, nationale, si j'ose dire.
Il faut comprendre, Michel Surial, les faits. Finalement, de quoi Blanchot est-il coupable, s'il est coupable de quelque chose? Je dis, il a collaboré dans quelques revues d'extrême droite avant la Seconde Guerre mondiale. On trouve, parce que vous les publiez aussi dans votre livre, dans cette chronobio-bibliographie, quelques extraits qui donnent une idée du type de propos que Blanchot pouvait écrire. Certaines phrases sont très choquantes, à propos de Blum notamment. On a comme un florilège de ces petites phrases sur lesquelles il n'est jamais revenu ensuite. C'est cela, en fait, plutôt qu'on lui reproche.
C'était très difficile. C'est la seule chose que je ne comprends pas. Je lui ai écrit par deux fois, justement, au moment où j'écrivais mon bataille, pour lui demander simplement, je suis très loin de tout sentiment de procès, d'accusation, de justice, de réquisitoire. Enfin, toutes ces choses-là sont parfaitement répugnantes. Je voulais simplement comprendre, et pour cela, je voulais simplement qu'il aide la génération que nous constituions à comprendre. Le regret que j'ai, c'est qu'il ne l'ait pas fait, à aucun moment, d'aucune sorte, sauf un peu plus vers la fin, parce que pressé un peu plus par des révélations de plus en plus nombreuses, et chaque fois maladroitement, soit en minorant la portée, l'importance, soit en les amendant par quelques explications qui ne constituent pas une interprétation à mes yeux. Ce sont des explications pour la plupart qui le défaussent, ce sont des défenses, donc, en somme. Je peux le comprendre. C'est lourd de porter, quand on est à ce point-là devenu l'ami de Lévinas, quand on est un lecteur de la pensée juive aussi attentif, puissant, lumineux que lui, de devoir concéder qu'on a pu être le contraire avant la guerre, et d'avoir notamment non seulement détesté Blum parce qu'il était un bolchevique dans le langage d'époque, mais d'une race étrangère, c'est le mot qu'il emploie.
Oui.
Voilà, on a beau aujourd'hui dire, on a plus d'une fois dit, et des gens qui venaient en défense de Blanchot dire que c'était un langage d'époque, non. C'est un langage d'époque d'une certaine classe, bourgeoise, catholique, provinciale d'origine, réactionnaire, qui montre une passion tout à fait définitive et sans concession pour la France, dans une sorte de substantialisation de la France, dont on ne sait pas d'ailleurs à quelle histoire elle se rapporte vraiment. Enfin, là-dessus, Blanchot ne remontait à l'époque jamais à la Révolution française. Il y avait une sorte de France éternelle au nom de laquelle il parlait, pensait et polémiquait. Donc le problème, c'est qu'il ne soit jamais venu nous dire d'une façon intelligible, et même à des amis très bienveillants, comme Roger Laporte, par exemple, ou Philippe Lacoulabarthe, ou Jean-Luc Nancy, ou moi-même, puisque je l'ai sollicité de façon de la moins pressante que qu'il se puisse. Je ne lui ai jamais demandé de se justifier de quoi que ce soit, simplement de qu'on comprenne qu'est-ce qu'il y avait dans les années 30 qui pouvait porter un tel homme à dire ce qu'il a dit, à écrire ce qu'il a écrit, et après la guerre, à dire non seulement tout son contraire, mais le dire avec une flamme au moins aussi considérable. Alors il le concède à Roger Laporte. Il y a quelque chose chez lui d'une passion politique, et cette passion politique-là m'intéresse beaucoup.
Alors il le concède à demi-mot quand même, on entendra le texte ensuite. Il faut vraiment savoir de quoi il parle pour, entre deux lignes et à la fin d'une phrase, comprendre qu'il fait référence éventuellement à ses collaborations. On ne passe pas aux aveux non plus.
Non, mais il est l'auteur d'un livre qui s'appelle La communauté inavouable. Il y a une autre chose que vous avez dit, enfin, justement, au début, c'est qu'il n'y a pas que cela qui est secret chez Blanchot. Blanchot lui-même tout entier a été tout au long de sa vie un secret, même pour les gens qui le lisaient le plus assidûment, même pour des gens qui l'aimaient. Songez que vous n'avez bien évidemment aucune archive sonore de Maurice Blanchot à France Culture, enfin Radio France. Il n'existe qu'un seul entretien écrit qu'il a donné à Madeleine Chapsal au moment de du manifeste des 121. Il n'y a eu jusqu'à sa mort aucune photo de lui publiée, sauf la photo qui le montre avec Emmanuel Lévinas en 1927, et une photo volée par un paparazzi sur un parking de supermarché assez honteusement, et d'ailleurs d'aucune espèce d'intérêt ni d'utilité. Voilà, il a entretenu un secret. Il avait une phrase, il l'avait lui-même, si j'ose dire, organisée, non pas du tout seulement pour dissimuler quelque chose qui aurait trait à ce passé, mais parce que c'était ainsi qu'il avait considéré que la littérature devait être. Quand il a demandé chez Gallimard qu'une fois pour toutes il soit écrit, quand il y avait encore des quatrièmes de couverture sur ses livres, Maurice Blanchot, romancier et critique, né en 1907, sa vie est entièrement vouée à la littérature et au silence qui lui est propre. Et beaucoup de gens ont adopté cette posture quasi érémitique qui est la sienne. Elle a irrité d'autres gens qui trouvaient que c'était quand même pas l'ordinaire du commerce de la pensée ni du livre. Pour ma part, je fais partie de ceux que celle-ci séduisait considérablement. Il y avait Debord aussi qui était dans la discrétion la plus grande. Mais la génération aussi le voulait. Léris n'a jamais donné d'entretien. Enfin, beaucoup
n'ont jamais donné d'entretien. C'est quand même un contexte où l'auteur disparaît derrière le texte. Nous parlions de Louis Althusser hier, en compagnie d'Éric Marty, le secret redoutable de Louis Althusser qui avait assassiné sa femme, qui l'avait étranglé. Éric Marty pointait l'importance de cette disparition de l'auteur derrière le texte. On pourrait lire le travail de Blanchot en le contextualisant, en pointant justement cette disparition volontaire du jeu derrière le « il » qui est écrit, pour reprendre sa propre formule. Mais il est difficile de ne pas relire ses écrits, une fois qu'on connaît ce secret, ce qu'on peut lui reprocher aujourd'hui, sans y voir une forme aussi d'explicitation ou de tentative de cacher ce qui ne peut être dit. Tout ce qu'il dit de la littérature peut être compris comme une métaphore de ce qu'il a fait en réalité.
C'est juste. C'est un soupçon à l'intérieur d'un autre soupçon. C'est un secret à l'intérieur d'un autre secret. Il le disait lui-même. Je suis parti pour ce livre de ce qu'il a tout à fait maladroitement écrit, se jetant dans une querelle qui n'avait pas trop besoin de lui au sujet de Heidegger et au moment de la publication du livre Victor Farias. Parce que la querelle Heidegger a commencé il y a quand même fort longtemps. Et il écrivait, ça je me permets de le lire, il dit « Plus on accorde d'importance à la pensée de Heidegger, plus il est nécessaire de chercher à élucider le sens de l'engagement politique de 33-34. » Et deux lignes plus bas, il écrit « Il y a eu corruption d'écriture, abus, travestissement, détournement du langage. Sur lui pèsera dorénavant un soupçon. » J'ai pris à la lettre ces deux phrases, et les appliquer à son propre cas. Comment Heidegger ne s'est-il pas expliqué jamais vraiment de la portée de son engagement, et comment Blanchot ne s'en est-il pas expliqué davantage? Bien évidemment, je ne mesure pas le tort, l'écart, le travers de Blanchot à celui de Heidegger. Il est bien moins considérable et il a duré infiniment moins longtemps. Et les conditions historiques de l'Allemagne nazie ne sont pas les mêmes que celles de la France prévichiste et celles du Front populaire, par exemple. Mais malgré tout, il y a quelque chose à la hauteur de quel lui, qui a été pour toute notre génération une sorte de parangon de la vertu littéraire, du mérite littéraire, de l'intellectualité la plus pure, comment était-il possible qu'il se dérobe devant ce qui aurait été un questionnement bienveillant, peut-être serré, peut-être... Voilà, c'est une vraie question. Moi, l'écart s'est produit entre Bataille et lui. Il fait très grand cas de Bataille, dès l'instant qu'il le rencontre, et tout d'un coup, il semble épouser la pensée de Bataille, mais Bataille, d'une certaine façon, et peut-être à son insu, le justifie rétrospectivement. Et il fera de même dans les 25 dernières années de sa vie, avec le nom d'Emmanuel Lévinas, qui va venir couvrir toute une sorte de pensée qu'il adopte à ce moment-là, mais qui n'a jamais été, enfin, qui n'a pas été tout le temps la sienne, loin de là. Il est passé par des pensées très différentes. C'est ce qu'on ne soupçonne pas quand on se met à lire Blanchot. Mmh. Et quand on lit les grands livres de littérature de Blanchot, les grands livres de pensée de Blanchot, on ne soupçonne pas que cet homme, finalement, a beaucoup changé dans sa vie. N'est pas le même. Il n'est pas le même, non pas d'une façon modeste ou modérée ou discrète. Il l'est par deux fois au moins, d'une façon tout à fait virulente, passionnée, romantique même d'ailleurs. Voilà encore un mot qui ne colle pas quand on lit ces textes politiques, ceux par exemple de mai 68, avec lesquels bien évidemment je ne pouvais qu'être d'accord et que j'ai toujours trouvé admirable.
Oui, parce qu'il faut préciser que Blanchot semble avoir fait amende honorable en se convertissant, ce sont ses mots, au communisme dans les années 60, en soutenant les étudiants en mai 68, les Algériens qui l'appellent les 121. Il y a comme un revirement politique qui a lieu après la Seconde Guerre mondiale.
À tous les exposants sont inversés. Tout ce qui était national, voire nationaliste, chez lui devenu international et internationaliste. Tout ce qui pouvait être xénophobe devient l'exact contraire. Tout ce qui pouvait être proche, car il a été proche de gens qui écrivaient des textes réellement antisémites. Les livres ne produisent pas les unes de l'insurgé, mais il y a des unes tout à fait infamantes de Léon Blum, montrant du sang sur ses mains, qu'il a évidemment crochu. Il était rédacteur en chef de ce journal, le tort est grave. C'est quand même du plus haut intérêt intellectuel que de solliciter de lui, et nous n'aurons pas obtenu de réponse à ce sujet, ce qui a pu faire qu'il est passé de ça à ce philosémitisme si ardent, quasi identificatoire.
Pour vous, le problème est intellectuel, c'est en tant qu'intellectuel qu'il se doit de s'expliquer de ses actions.
Cette question est intéressante, parce que justement le problème est politique. Le problème est politique. Et c'est le rapport qu'entretient l'intellectualité avec la politique qui est décidément, à mes yeux, un vrai problème. J'ai écrit beaucoup là-dessus. Et Blanchot est certainement... C'est pour ça que je ne pouvais pas éviter de faire ce livre un jour. J'avais pensé le faire dès 88. Et je l'ai remis longtemps, jusqu'à temps que je... On ne peut pas aborder un tel livre sans être assez mûr quand même. Il fallait avoir un calme total, être capable de ne l'accuser en rien, de ne se faire le procureur de rien, simplement d'essayer d'établir, même pas tant les faits qui commencent d'être établis, mais le sens des faits. Bon, c'est le travail auquel je me suis mis. Ce qui me trouble toujours, c'est effectivement les rapports tout à fait inévitablement conflictuels qu'entretiennent. Conflictuels ou contradictoires ou inaccommodables, je ne sais pas comment dire, de l'intellectualité, de l'exercice intellectuel et de l'exercice politique, c'est-à-dire de la pensée et de l'action ou de l'engagement. C'est un problème de notre génération. Sartre aussi. Pour parler de Sartre, qui est plus simple et qui est mieux connu, il a constamment été entre... était déporté vers des moments période d'embrasement, de véhémence, et puis se repliant sur quelque chose qui était l'exercice pur de la pensée. Je pense même à Sartre en 68, quand il s'est engagé de façon si active, lui aussi, comme la plupart des intellectuels de cette génération, dans le mouvement de mai. Eh bien, il disait à ses camarades, quand il s'agissait d'aller vendre la cause du peuple dans la rue dans les années qui ont immédiatement suivi, que ceci le pressait bien évidemment de les accompagner, parce que la police n'était quand même pas la même quand Sartre était avec eux que quand ils étaient sans lui. Il leur disait, mais il faut que je suis un écrivain bourgeois, il faut que je termine mon Flaubert, quoi. C'est-à-dire l'idiot de la famille. Ouais. Et l'écrivain, c'est Adorno qui disait ça. L'intellectuel est un bourgeois. Il est l'ennemi des bourgeois, mais c'est le dernier des bourgeois. Et Blanchot reste un bourgeois en tant qu'il est intellectuel. Et sitôt qu'il faut qu'il franchisse le pas qui va le mener à l'action, donc se mêler à la communauté de l'action, chose qui l'a si fort attiré et qui l'a rendu profondément heureux. Si une chose l'a rendu heureux dans sa vie, c'est certainement l'engagement politique. Au prix même de s'y dissoudre, de devenir, comme vous le disiez, un il, un autre il que celui de la littérature, c'était le il de l'impersonnalité du groupe, non pas en fusion comme disait Sartre, mais c'était pas très loin. Et ce il-là l'a rendu heureux profondément.
Écoutons la définition que Maurice Blanchot propose des intellectuels, puisque c'est le sujet et vous pourrez nous dire ce que vous en pensez ensuite après Michel Suria. C'est un extrait des intellectuels en question qui date de 1996, lu par Yvan Moran.
Qu'en est-il des intellectuels? Qui sont-ils? Qui mérite de l'être? Qui se sent disqualifié si on lui dit qu'il l'est? Intellectuel? Ce n'est pas le poète ni l'écrivain. Ce n'est pas le philosophe ni l'historien, ce n'est pas le peintre ni le sculpteur, ce n'est pas le savant, fût-il enseignant. Il semble qu'on ne le soit pas tout le temps, pas plus qu'on ne puisse l'être tout entier. C'est une part de nous-mêmes qui, non seulement nous détourne momentanément de notre tâche, mais nous retourne vers ce qui se fait dans le monde pour juger ou apprécier ce qui s'y fait. Autrement dit, l'intellectuel est d'autant plus proche de l'action en général et du pouvoir qu'il ne se mêle pas d'agir et qu'il n'exerce pas de pouvoir politique. Mais il ne s'en désintéresse pas. En retrait du politique, il ne s'en retire pas. Il n'y prend point sa retraite, mais il essaye de maintenir cet espace de retrait et cet effort de retirement pour profiter de cette proximité qui l'éloigne, afin de s'y installer, installation précaire, comme un guetteur qui n'est là que pour veiller, se maintenir en éveil, attendre par une attention active où s'exprime moins le souci de soi-même que le souci des autres.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons de la vie secrète des philosophes cette semaine. Aujourd'hui, du secret qui n'en est plus un de Maurice Blanchot, à savoir sa collaboration pour des revues d'extrême droite avant la Seconde Guerre mondiale. C'est alors qu'il fait un retour vers l'affaire Dreyfus, notamment, et le rôle de Heidegger également dans cette affaire que Blanchot écrit Céline sur les intellectuels en 1996. Michel Suria, qui est avec nous en duplex depuis Rouen. Et le texte a ceci d'ambivalent qu'il décrit le rôle de l'intellectuel comme étant à la fois engagé, mais à se tenant à une distance qui ne l'engage pas vraiment. On ne sait pas vraiment où se situe l'intellectuel pour lui dans ce texte. Ou alors c'est moi qui le comprends mal.
Non, non, vous comprenez très bien qu'il n'y a pas lieu de le comprendre. C'est un repentir manifeste de ce qui était la pensée qui était la sienne de mai 68 et de tous les textes qu'il a écrits pendant mai 68 et après mai 68, c'est-à-dire jusqu'en 69, où le comité auquel il appartenait a été dissous. C'est un repentir, oui, c'est une correction, oui, comme il corrige, c'est toujours son emploi assez... pour ma part séduisant, mais qui peut être irritant, de ses antagonismes, quand il parle de proximité qui éloigne. Bon.
Mais il ne parle jamais de lui-même en même temps dans ce texte. Il n'y a aucune référence explicite à ce qu'il a fait.
À aucune. Ouais. Oui, il l'entretient, mais il n'a pas, en général, il n'est pas question là que de la politique, il n'a en général pas le goût de parler de lui-même. Il a toujours tout fait pour qu'on ne sache rien de ce qu'il pensait lui. Vous l'avez dit, il ne parle pas à la première personne. Et pourtant, Dieu sait, cette première personne n'est pas n'importe qui. Et ça aurait été du plus grand intérêt. Bon, ce qu'ils ont entrepris, parce que les amis du comité, c'est Dionis Mascolo, vous l'avez dit, c'est bien évidemment Marguerite Duras, Louis-René Desforêts, Michel Léris, Jean Schuster sont des surréalistes aussi de l'après-guerre, des années 60. Il a effectivement conçu avec eux quelque chose dont il n'est pas possible de lui laisser dire qu'elle n'avait pas trait à l'action. Il était tout à fait dans l'action, dans la rue, dans les manifestations, tout près toujours des barricades, sitôt qu'il pouvait l'être. Il a pris à cela une part qui n'est pas la part qu'il définit là dans le texte que vous venez de lire. Il est dans l'action. A-t-il mesuré 20 ans plus tard que cette action qui plus est à ses yeux lui a paru réussir? Il a dit d'une façon que je trouve surprenante que la révolution avait eu lieu. C'est une chose qui me frappe aussi beaucoup.
Bon, c'est ce qu'il dit à propos de mai 68?
Oui, il dit cela. Il en est convaincu. Il en est convaincu pendant 2-3 ans jusqu'au début des années 70. Et en ce début des années 70, il rentre dans une véritable profonde dépression de l'échec de 68. Il n'en parlera jamais de cela. La seule chose, le seul signe auquel les proches ont pu le mesurer, c'est qu'il n'a plus voulu voir personne et qu'il s'est retiré. Effectivement, Jérôme Lindon me l'a dit une fois, il ne l'a plus jamais vu, quoiqu'il ait continué de le publier.
De 1971 jusqu'à sa mort en 2003.
Oui, il n'a vu personne. Absolument. Monique Antelme, qu'il voyait très régulièrement. Oui, oui, c'est tout, c'est qui l'appelait tous les jours. Oui, c'est le auprès de laquelle il se renseignait. Il était tout à fait au courant de ce qui se passait, de ce qui avait lieu, même des manifestations qui avaient lieu à son sujet. Mais lui n'a plus jamais reparu. Voilà, c'était cette chose. L'effet a été considérable. Il s'est replongé dans la littérature, dans la philosophie, et essentiellement dans la pensée. Dans la pensée, entre philosophie et littérature, il s'est abstenu à ce moment-là de toute intervention politique. Il a cru devoir, pas d'une façon forcément à droite, répondre au texte de Jean-Luc Nancy, La communauté désœuvrée, qui avait paru en revue. Aussitôt, Maurice Blanchot écrit et publie un livre qui s'appelle La communauté inavouable. Cette communauté inavouable est un livre imprenable aussi, car pour les mêmes raisons que vous venez de dire, on ne sait pas du tout ni lui où il se situe, ni comment il situe les événements auxquels il a pris part ou dont il a eu connaissance. Il parle notamment de ces falles auxquelles il n'a pas pris part puisqu'il ne connaissait pas Bataille, qui n'était pas du tout du même bord avant la guerre. Et il adopte tout ça. Il en fait une sorte de bien propre, comme s'il en héritait directement de Bataille, parle au nom de Bataille. Je me suis irrité contre ça parce que je trouvais qu'il infléchissait profondément le sens de ce que Bataille avait dit. Bataille lui a fait sentir aussi à la fin des années 50, quand il a refusé de les rejoindre, ils étaient tous des amis, Mascolo notamment, et Blanchot aussi, de les rejoindre dans la lutte contre la prise du pouvoir par De Gaulle. Non pas qu'il approuva cette prise de pouvoir, mais simplement il a fait valoir à Mascolo, et donc à Blanchot, quasi directement, que c'était là le faire céder sur ce qu'il considérait être sa souveraineté. Et que la souveraineté, c'est là que j'en reviens,
oui,
au dilemme décidément irrésolvable, je ne sais pas si on le dit, de la politique et de la pensée. Pour Bataille, la politique, c'est toujours la boue du compromis. Pour Blanchot, il lui a dû lui sembler, plus d'une fois, possible de faire qu'il ne compromette pas la pensée dans la politique. Bataille l'a rappelé à l'ordre de ça. Sa rage à lui ne pouvait pas se satisfaire des formes qu'elle était contrainte d'adopter par le compromis qu'on passe avec d'autres dans la politique, et c'est la règle de toute politique, bien entendu. Et c'est cela qui m'intéresse le plus, c'est pour ça que j'ai fait ce livre.
Donc, le rôle de l'intellectuel en politique serait toujours limité par le fait que toute forme de politique implique un compromis. Or, il y a un aspect radical à la position de l'intellectuel qui n'est pas forcément compatible avec la politique, c'est comme ça qu'il faut le comprendre ?
Et c'est comme ça que je le pense, ouais. C'est comme ça que je comprends que Bataille l'a pensé. Je me mêle constamment de politique. La revue Ligne est une revue essentiellement politique. L'intellectuel peut autant que possible intervenir dans la politique, mais à la condition qu'il le fasse en tant qu'intellectuel. Sitôt qu'il quitte, je ne sais plus qui disait que l'écrivain devait être engagé, mais aussi peu que possible en tant qu'écrivain. C'est-à-dire que l'écrivain n'engage que le nom que l'écriture lui a fait. Pas lui-même en tant que dans sa pensée et dans son œuvre. L'œuvre de pensée ou de littérature ou d'art doit toujours être mise à l'abri de la politique. Or, la politique ne s'accommode pas d'une telle hauteur que s'octroie la pensée ou l'art. Et le combat, nécessairement, la politique a toujours eu besoin d'engager la pensée à son service. Le non serviam, dont Bataille disait qu'il était à ses yeux la devise du diable, bien entendu, on le sait, et donc partant de la littérature, doit l'être aussi de la pensée. Et Blanchot, Je ne lui reproche pas d'avoir pu penser pour lui qu'il trouverait une solution, une jonction possible, sans compromis par exemple. J'ai simplement reproché qu'il puisse laisser croire que Bataille l'avait pensé comme lui. Non, Bataille ne l'a jamais pensé. Et c'est une question tout à fait importante pour aujourd'hui, indépendamment des histoires respectives de Bataille, de Blanchot, de Sartre ou de qui que ce soit.
Écoutons le témoignage de Dionis Mascolo, qui était un des très proches amis de Blanchot dans les années 50 et qui rejoint comment il fut rejoint par Blanchot lui-même à la création de la revue le 14 juillet, où Blanchot va signer son retour à la politique avec un texte intitulé « Le refus ».
J'ai fondé la revue 14 juillet contre la prise du pouvoir par De Gaulle en 58. Le premier numéro paraît et je reçois quelques jours après un mot qui m'a ébloui, un mot de quelques lignes. Je veux vous dire mon accord. Je n'accepte ni le passé, ni le présent, quelque chose comme ça. Trois lignes, c'était Blanchot. Naturellement, je lui réponds aussitôt. Et dans le deuxième numéro, il y a un texte de lui qui dit déjà le sens qu'aura notre amitié. C'est-à-dire, il l'appelle lui-même l'amitié du non, non, N-O-N, le non, le refus que nous prononçons en commun contre ce qui nous semble insupportable dans l'état de choses. C'est la perversion du politique quand le pouvoir prétend être incarné par un homme providentiel.
À un certain moment, face aux événements publics, nous savons que nous devons refuser. Le refus est absolu, catégorique. Il ne discute pas, ni ne fait entendre ses raisons. C'est en quoi il est silencieux et solitaire, même lorsqu'il s'affirme comme il le faut au grand jour. Les hommes qui refusent et qui sont liés par la force du refus savent qu'ils ne sont pas encore ensemble. Les temps de l'affirmation commune leur a précisément été enlevés. Ce qui leur reste, c'est l'irréductible refus, l'amitié de ce non, certain, inébranlable, rigoureux, qui les tient unis et solidaires. Le moment de refuser est rare et difficile, quoique égal et le même en chacun de nous dès que nous l'avons saisi. Pourquoi difficile ? C'est qu'il faut refuser, non pas seulement le pire, mais un semblant raisonnable, une solution qu'on dirait heureuse. En 1940, le refus n'eut pas à s'exercer contre la force envahissante, ne pas l'accepter aller de soi, mais contre cette chance que le vieil homme de l'armistice, non sans bonne foi ni justification, pensait pouvoir représenter. On dira qu'aujourd'hui il est facile de refuser, que l'exercice de ce pouvoir comporte peu de risques. C'est sans doute vrai pour la plupart d'entre nous. Je crois cependant que refuser n'est jamais facile, et que nous devons apprendre à refuser et à maintenir intact, par la rigueur de la pensée et la modestie de l'expression, le pouvoir de refus que désormais chacune de nos affirmations devrait vérifier. Michel Suria, ce refus dont parle Blanchot a cette radicalité que vous décriviez comme étant nécessaire à propos de l'intellectuel qui choisirait de s'engager en politique. La question est celle de savoir si Maurice Blanchot lui-même a su être fidèle à cette éthique du refus, à cette éthique du non qu'il esquisse dans ce texte.
Je trouve toujours ce texte admirable, le début tout du moins, qui est une perfection employable toujours dans toutes sortes de circonstances nouvelles qui... Je dirais une autre chose au sujet de Dionis Mascolo, mais je serais tenté de, pour conforter ce que je disais tout à l'heure, le refus ne constitue pas une politique, mais c'est très exactement ce que l'intellectuel peut faire, ça, oui. Il n'y a pas d'affirmation de quelque règle que ce soit, il n'y a pas de prise de pouvoir que ce soit, et rien dans ce texte ne prétend à ce que ce pouvoir nie parce que évidemment De Gaulle est honni par Maskelot et par Blanchot et par leurs amis, et doit être occupé par un autre. Il n'a rien là-dedans d'autre que ce que la radicalité peut en effet inspirer et doit inspirer, ce dont elle doit pouvoir nous donner de temps à autre le courage. Maskelot l'a toujours eu. Il a commencé dès 55 contre la guerre d'Algérie, la guerre française en Algérie, la guerre menée par la France en Algérie. Blanchot l'a rejoint. Ce n'est pas la meilleure chose qui pouvait arriver à Maskelot, qui est un homme tout à fait admirable. Je vais republier Le communisme qu'il a publié en 53. Un énorme livre qui était tombé totalement dans l'oubli depuis. Son œuvre est considérable, sa pensée est considérable, la proximité de Marguerite Duras a compté beaucoup aussi. Blanchot l'a tellement ébloui que quelque chose des capacités propres qu'avait Maskelot lui ont été concédées. Je le regrette, je suis tout à fait convaincu que Maskelot aurait pu continuer, parce qu'il n'a plus beaucoup écrit et plus assez écrit par la suite.
Ébloui qu'il était par sa rencontre avec Maurice Blanchot.
Mais Blanchot a fasciné, ça ne fait pas.
Oui, alors ça, on a du mal à prendre la mesure aujourd'hui de cette fascination qu'il suscitait.
Oui, eh bien, auprès de très peu de gens, donc cette fascination n'est pas en un nombre considérable, parce que très peu de gens l'ont vraiment fréquenté. Mais ce qui fascine, c'est l'œuvre. Maskelot l'avait lu. Maskelot avait lu Bataille, avait lu Lyris, avait lu les cites longuement, Queneau aussi, dans son livre Le communisme. Et ce sont des familiers, des amis de lecture. C'est ce que plus tard il appellera le communisme de pensée. C'est un communisme qui passe par la pensée et qui sans doute doit s'absoudre de la politique, se soustraire, s'exempter de la politique. La pensée, je vais pas revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais il en a l'intuition, il le pense fermement. Blanchot vient trouver les mots dessus. Le manifeste 121 a été presque majoritairement, presque en totalité rédigé par Dionis Maskelot, et Blanchot est venu qui a apporté les quelques corrections qui s'imposaient et la modification du titre qui a frappé. Il avait ce ton-là aussi. Il ne faut pas oublier que c'est un ancien publiciste, un ancien journaliste. Il était rédacteur en chef pendant l'avant-guerre de plusieurs publications. Il savait comment titrer.
Il a
savait
le sens comment du titre et de la formule.
Il a le sens de ça. Oui. Parce que pour Dionis Maskelot, ça s'appelait « Déclaration sur le droit à l'insoumission dans le cadre de la guerre d'Algérie », ce qui est un peu long.
Oui, c'est moins fort que le manifeste de 121.
C'est moins fort que manifeste, évidemment. Le problème que me pose Blanchot dans ce cas-là, c'est qu'il applique ce refus à De Gaulle une nouvelle fois. En somme, c'est la deuxième fois qu'il refuse De Gaulle. J'aurais mille fois mieux aimé, maintenant que j'ai lu tout Blanchot, y compris tout ce qu'il a écrit pendant la guerre, parce qu'il est faux de dire que, bien évidemment, la collaboration de Blanchot aux journaux d'extrême droite s'est arrêtée avec la déclaration de la guerre. Il a continué de collaborer hebdomadairement au journal des débats jusqu'à la libération de la France, en août 44, jusque dans le dernier numéro. Il continuait d'écrire dans un journal pas maréchaliste. Il ne suffit pas de dire, c'est pas suffisant de dire qu'il est maréchaliste, ce journal. C'est un journal parfaitement collaborationniste et enragé. Bon, c'est la deuxième fois qu'il dit non à De Gaulle. Ses amis ne le savent pas. Maskelot, quand il le découvrira, ce sera extrêmement pénible pour lui. Si secret il y en a eu un pour Duras et pour Maskelot, par exemple, et quelques autres amis. Je sais que Monique Antelme n'a jamais voulu croire cela possible, penser que c'était simplement des médisances de la part de gens qui voulaient nuire à la mémoire de, ou même à la vie vivante de Blanchot, ou à sa mémoire après sa mort. Mais ça a été terriblement pénible de s'apercevoir que de tels mots qui étaient si propres à la circonstance de la prise du pouvoir, en effet contestable par De Gaulle, quasi putschiste par De Gaulle en 58, n'était pas le premier nom qu'il opposait à De Gaulle, mais le second, parce qu'il a écrit en 40, au contraire de ce qu'il dit dans ce texte, un applaudissement à la prise du pouvoir par Pétain. C'est cette histoire-là qu'il faut que nous fassions. C'est cette histoire-là que j'ai fait, pas tout seul, parce que j'ai précédé mon livre, un numéro de ligne qui s'appelle « Les politiques de Maurice Blanchot », auquel ont collaboré sur ce sujet-là précisément, de la première vie intellectuelle politique de Maurice Blanchot, David Amar, François Brémondi, David Urig, qui établissent les faits. Et ces faits, on va devoir le mesurer un peu plus maintenant encore, forcément, puisque tout se publie, tout paraît, les correspondances sortent, sont vendues, sortent. Tout ceci, nous allons devoir en prendre la mesure. Mmh. Même depuis que mon livre a paru, après, me donnant raison en somme, tous les textes de Blanchot d'avant-guerre ont été publiés. Ils sont disponibles. C'est une chose intéressante et c'est une chose qui intéresse l'historiographie intellectuelle. Maurice Blanchot devient l'auteur d'articles qu'il a voulu cacher à la terre entière.
Ce qui pose un problème quand même éthiquement, que penser, et alors là pour le coup cette question se pose au sujet de nombreux écrivains, que penser de la publication d'ouvrages que ces écrivains ne souhaitaient pas voir publiés. C'était le cas de Kafka, par exemple, et pourtant tout le monde se réjouit aujourd'hui que ses livres aient été publiés.
C'est exactement, en effet, le contraire. On ne peut que se réjouir de ce que Max Brod n'ait pas tenu compte de ce que Kafka lui avait demandé si fort. Là, en le cas présent, Maurice Blanchot avait choisi trois ayants droit. Il y avait Jacques Derrida, lui René Desforêts et Manic Anthelme. À ces trois exécuteurs testamentaires, il était clairement dit, demandé que rien, aucune correspondance ne paraisse et aucun de ces textes-là ne paraisse. Rien qu'il n'avait pas signé de son nom, de son vivant. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Tout est en vente, les manuscrits, les tapuscrits, les versions originales inédites chez des marchands de livres de manuscrits anciens. C'est pour l'historien. Ça sera intéressant. Je trouve qu'effectivement, c'est un abus. Je n'ai pas le goût des procès et j'ai au contraire le goût du secret. Et je pense que ce secret-là, Maurice Blanchot était légitimé à l'avoir. Les correspondances notamment sont en vente actuellement, toutes les correspondances à sa mère et à sa sœur. Ceci l'aurait absolument révulsé.
Alors, que penser de la lettre à Roger Laporte, qu'il écrit en 1984, dans laquelle Blanchot accepte de raconter sa version des faits quant à ses engagements avant la Seconde Guerre mondiale? Et c'est un des seuls textes où il s'explique sur son passé d'extrême droite. Est-ce que vous voulez l'entendre, Michel Suria, ou est-ce que ça fait partie de ces textes que vous préférez, qui ne soit pas ni publié ni entendu?
Mais cette lettre a été publiée par Jean-Luc Nancy en annexe de son...
Voilà. De Maurice Blanchot, Passion politique, en 2011.
On est dans un cadre public, l'échange entre les deux hommes était d'une amitié étroite. Roger Laporte, si fervent qu'il ait été, et si, c'est Roger Laporte qui était un ami aussi pour moi, et qui a fait son possible et obtenu gain de cause pour que le numéro de ligne consacré à Maurice Blanchot en 1990 ne comporte aucune allusion au passé politique antérieur à la guerre. Parce que, voilà, ça l'aurait tué, m'a-t-il dit. C'est une chose qui... tout le monde était plus que bienveillant avec lui, était protecteur pour lui. Il l'a toujours été... dépeint, ressenti, vécu comme ce grand homme fragile, malade depuis toujours, dont les moindres chocs émotionnels étaient susceptibles d'aggraver l'état, et tout le monde, et Jacques Derrida fut partie à partager ce sentiment et cette attitude. Que cette lettre ait été, moi j'en ai d'autres aussi.
Et qui vécut 96 ans quand même.
Oui, c'est très tardif, mais il y a d'autres lettres. Si aujourd'hui on compare les lettres, puisqu'il en paraît dans les cahiers de Lerne, il en paraît une sur la fameuse scène de la fusillade, de la mise au mur par la division d'Eisreich.
Oui, parce qu'il a failli être fusillé lui-même pendant la Seconde Guerre mondiale.
C'est ce qu'il dit, mais il y a une lettre à Jean Pouyant qui, dans le numéro des cahiers de Lerne, décrit la scène tout autrement et qui a été écrite 2 jours après, en laquelle on est justifié de fonder un peu plus de crédit quand même.
Alors que fait-on de cette lettre à Roger Laporte? Est-ce que vous souhaitez l'écouter? Parce qu'en plus on comprend le titre de votre livre.
Bien entendu.
Je vous ai raconté, je crois, comment j'eus le triste privilège d'assister à Vichy à la capitulation de l'Assemblée nationale, mettant fin illégalement à la Troisième République et confiant tous les pouvoirs à un homme usé de qui on ne pouvait attendre qu'une politique intérieure et une politique extérieure détestable, sous des simulacres trompeurs. Ma décision fut alors immédiatement prise. C'était le refus. Refus naturellement face à l'occupant, mais refus non moins obstiné à l'égard de Vichy, qui représentait à mes yeux ce qu'il y avait de plus dégradant. J'ai laissé de côté ce qui, durant ce temps, sans doute depuis 1930, aurait été ma vraie vie, le mouvement de l'écriture, son obscure recherche, son aventure essentiellement nocturne, d'autant plus que, comme Kafka, il ne me restait que la nuit pour écrire. En ce sens, j'ai été exposé à une véritable dichotomie. l'écriture de jour au service de tel ou tel, et l'écriture de nuit, qui me rendait étranger à toute autre exigence qu'elle-même, tout en changeant mon identité ou en l'orientant vers un inconnu insaisissable et angoissant. S'il y a eu faute de ma part, c'est sans doute dans ce partage.
Blanchot, nous étions ensemble presque pendant tout mon séjour à Strasbourg. Peut-être est-il venu 2 ou 3 ans après moi, n'est-ce pas ? Je ne peux pas vous le décrire, n'est-ce pas ? J'ai pas l'impression d'une extrême intelligence, d'une pensée absolument aristocratique, hein, très éloignée de moi à cette époque-là, au point de vue politique, n'est-ce pas ? Il était, je ne sais pas s'il faut, il était très à droite, n'est-ce pas ? Mais nous avons eu très vite un accès l'un à l'autre. Sur beaucoup de points, nous pensons ensemble. Il a eu aussi une évolution toute intérieure. Il n'y a jamais eu la moindre concession opportuniste. Cette impression d'un homme sans opportunisme. Voilà le contact moral avec lui. Je n'ai pas de souvenir, comment dirais-je, de rigolade, pas, si je peux dire, pas de... C'est toujours, en ces termes-là, sur les lieux les plus élevés que je me suis senti l'avoir rencontré.
C'est le 20 mars 1993 que Lévinas, dans l'émission Le Bon Plaisir, proposait le portrait de son ami Maurice Blanchot, cette amitié assez singulière, hein, Michel Churia, où Lévinas le décrit comme étant à la fois très éloigné de lui politiquement, mais ayant eu un accès très rapide à lui-même, quand on sait que Lévinas est ce penseur de l'éthique, avec cette radicalité au sein même de l'éthique. On entend le texte de la lettre à Roger Laporte différemment, un texte qui a précédé cet extrait, où on trouve cette formule « J'ai été exposé à une véritable dichotomie, l'écriture de jour au service de tel ou tel, et l'écriture de nuit qui me rendait étranger à toute autre exigence qu'elle-même, tout en changeant mon identité ou en l'orientant vers un inconnu insaisissable et angoissant. » L'écriture de jour et l'écriture de nuit, ce sont les deux activités, les deux plumes, celle de l'essayiste ou du romancier, celle du journaliste, c'est comme ça qu'il faut le comprendre ?
Du pamphlétaire plutôt, ouais, que journaliste. Et il emploie le mot « le refus », là aussi, « le refus » cette fois-ci. On retrouve le mot « du refus » appliqué à l'occupant, bien évidemment, et occupé à Vichy, ce qui est fou, je vous l'ai dit juste avant. Ouais. Le temps sera long avant qu'il choisisse véritablement un camp. Je ne pense pas, il n'a pas eu d'activité, juste des collaborations compromettantes, pas d'activité compromettante, des collaborations compromettantes jusqu'à la fin de sa guerre, gravement compromettantes, et quand il fait reproche à d'aucuns ou qu'il les accuse même d'antisémitisme par le seul fait qu'ils ont écrit dans des revues où des antisémites eux-mêmes écrivent, cette accusation-là, je croyais avoir appris de Blanchot comme de Deleuze que le jugement était une chose absolument évitable contre laquelle il faut, dont il faut se garder, se prémunir, vraiment. Or, il a le jugement hâtif et brutal, et dire de quelqu'un qu'il est antisémite en quelque sorte par contagion, puisqu'on aura publié dans les deux, dans la même publication, se retourne contre lui terriblement, puisque c'est de lui qu'on peut dès lors le dire, et ce qu'il demandait qu'on applique à Heidegger tout d'un coup devient son propre motif d'accusation. Ce qui me trouble beaucoup, et ce qui explique sans doute votre étonnement devant les méandres de ses justifications. Et il y a une deuxième lettre que je connais qui est inédite à Laporte, qui concède un peu plus encore, qui est inédite celle-là que je ne publierai pas, mais qui concède encore sans aller au cœur. Il aurait pu y être prêt, ses amis avaient raison de l'y presser. Il y allait de même. Il faut se rendre compte de cela. Il s'agit aucunement de juger. Il y va de soi. Je trouve choquant l'allégation du nom de Kafka dans cette lettre à Laporte.
Oui, il dit comme Kafka, il ne me restait que la nuit pour écrire.
Kafka n'écrivait pas dans la journée des choses qui menaçaient qui que ce soit. Et choquant aussi le mot d'étranger. Finalement, le premier étranger qu'il aura aimé, c'est celui de sa nuit à lui. Celui qui écrit. C'est tout cela. Ce sont des réécritures maladroites. C'est étonnant. Je suis d'accord avec Lévinas, comme on n'est pas ému d'ailleurs d'entendre Lévinas. Mais son aristocratisme là, ne se sent pas. Il y a quelque chose de la maladresse auto-justificatoire, mais d'aller chercher des mots qui appartiennent à une période ultérieure pour essayer de décrire une période nettement antérieure, qui l'a compromise indéniablement. Il ne peut pas ne pas le mesurer. N'était-il pas mieux de le... j'allais dire d'en faire l'aveu, non. De s'en expliquer avec ceux de ses amis, mais même ceux qui n'en étaient pas, qui avaient besoin de comprendre. Parce qu'il s'agit véritablement, il n'est pas le seul, il ne nous intéresse aujourd'hui que parce que Blanchot est unanimement reconnu comme intellectuel éminent, mais le nombre est considérable de ceux qui ont été au Parti communiste après la guerre, juste après la guerre, et qui étaient dans l'Action française avant. Je veux dire, la question n'est, Madame Dominique Horry, Monsieur Claude Roy, on peut en citer beaucoup, ce sont des gens qui, Dominique Horry n'est pas entre du communiste, cela dit. Claude Roy, oui. Voilà. Donc, il s'agit véritablement d'interpréter une généalogie intellectuelle que la guerre semble blanchir pour certains d'entre eux quand elle en condamne d'autres. Ceux qu'elle condamne sont peut-être ceux qui sont restés les plus fidèles à eux-mêmes. Leur tort est définitif et ils n'ont peut-être que ce qu'ils méritaient. Mais je ne voudrais pas que les autres se parent d'un mérite qu'ils n'ont pas forcément eu.
Le mot de la fin sera...
Pardonnez-moi, vous parlez de l'éthique, justement. Mot qu'il emprunte si fort à la fin de sa vie, l'éthique lévinassienne. Il y a quelque chose comme une sorte de sourire que j'entends dans la voix de Lévinas.
Il le dit lui-même de son propre accent. Nous n'avons pas beaucoup rigolé avec Maurice Blanchot.
Oui, voilà. Il y a un sourire un peu moqueur. Et cet aristocratisme et cette éthique ne sont pas tant les siens qu'il le prétendra, mais Lévinas servira très opportunément à lisser une existence qui n'a pas été homogène, loin de là.
Le mot de la fin vous revient dans votre livre, vous écrivez « Il n'est interdit à personne d'avoir été avant quelqu'un que tout ce qu'on deviendra par la suite conteste, dément, répare, nie, mais il est à la pensée de ne pas le penser. » Un grand merci à vous, Michel Suria.
Alors, on n'entend pas Georges Hulmer, de nouveau?
Non, pas de nouveau, il a commencé l'émission. On se quitte avec Alain Bachung, « La nuit, je mens ».
Ah, c'est très bon.
L'écriture de jour, l'écriture de nuit, c'est le sous-titre de votre livre qui s'appelle L'autre Blanchot qu'on trouve aux éditions Gallimard. C'est un grand plaisir de discuter avec vous depuis France Bleu, Haute-Normandie.
Merci beaucoup à vous.
À bientôt.
Et au plaisir de se revoir. À bientôt.
On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. À la station balnéaire, tu t'es pas fait prier. J'étais gants de crin, je zère. Pour un peu, j'ai trempé. Histoire d'eau. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho.
Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est l'heure de retrouver le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Pour votre journal de la philo, c'est le philosophe et sinologue François Julien que vous mettez à l'honneur.
Des coïncidences si près tout autre, de l'écart et de la rencontre, ressources du christianisme et à venir en poche, une seconde vie. Et oui, ce sont les quatre ouvrages de François Julien publiés depuis septembre dernier. Hasard du calendrier peut-être, reste que le professeur à l'université Paris Diderot et titulaire de la chaire sur l'altérité au Collège d'études mondiales de la Fondation Maison des sciences de l'homme est l'un des philosophes les plus actifs et l'un des penseurs contemporains français les plus traduits dans le monde. En témoigne, cerise sur le gâteau, la parution d'un cahier de l'Erne qui lui est entièrement consacré. Alors si sa production est importante et la reconnaissance à la hauteur, comment expliquer cette présence de François Julien dans le paysage éditorial philosophique? Comment l'identifier, lui, le philosophe sinologue qui a travaillé sur l'écart? Eh bien, ça tombe bien, puisque l'identité et la présence, ce sont deux concepts qu'il a lui-même interrogés.
toute présence s'enlise. Et la question qui se pose, c'est justement de penser à la stratégie de désenlisement de la présence. Comment pouvoir sortir de cet être-être-là qui, non pas disparaît, mais désapparaît. Désapparaître, n'est-ce pas? Ce que disait Lucrèce du ciel qu'on a sous les yeux, n'est-ce pas? Comme on le voit tous les jours devant nous, présent devant nous, on ne le voit plus. On est plus sensible à cette merveille du ciel, des étoiles, de la lumière, enfin tout ce qu'on sait de cela, mais qu'on ne voit plus. Donc la question c'est, comment la présence, en se réalisant, se perd? Comment, disons, en s'imposant, elle se désactive, elle perd son caractère effectif, elle devient opaque. C'est-à-dire qu'elle laisse plus passer la présence. L'imprésence, en s'installant, ne laisse plus passer la présence, produit l'enlisement.
Il y a quelque chose d'étonnant à écouter François Julien parler de l'enlisement de la présence quand ses livres sont, quant à eux, autant présents. Il y a même quelque chose de prématuré et de paradoxal à parler aujourd'hui de l'œuvre de François Julien sur le mode de l'hommage, presque, en partant très classiquement de ses concepts, de sa méthode, de ses apports, alors même que l'œuvre existe bien encore et que son approche ne se veut pas classique. Alors, comment faire? Comment faire une présentation classique d'un auteur qui a quitté la Grèce pour la Chine et qui n'a pas travailler d'une manière académique? Comment recentrer une pensée qui s'enracine et le clame dans le décentrement? Comment aller au cœur d'un style qui s'est affirmé entre les lignes, dans l'entre-deux? Comment fixer une théorie de la décoïncidence et du paradoxal, qu'il s'agisse de l'art, de l'amour ou de la culture? Comment donc apprivoiser une telle démarche de l'écart?
La position dans laquelle je me suis mis, d'écart, n'est peut-être pas directement intelligible, mais c'est le propre de l'écart. C'est-à-dire que je viens de la philosophie grecque, mais j'ai fait le choix de m'en écarter, de passer en Chine, pour y trouver un ailleurs de la pensée, ailleurs par la langue, ailleurs par l'histoire, mais pas pour devenir sinologue, plutôt pour le devenir, mais sans me siniser. Donc avec l'idée d'un retour sur la pensée européenne, pour la réinterroger à partir de cet écart chinois, la réinterroger dans ce qu'elle n'interroge pas, c'est-à-dire dans ses partis pris, dans ses choix implicites, dans ce qu'elle véhicule comme de l'évidence.
De telles questions pourraient se résumer en une seule. Comment entrer dans une telle pensée? Et ça tombe bien puisque reparaît, en plus du reste, aux éditions Folio, son texte « Entrer dans une pensée ». Comment entrer dans une pensée? Eh bien, cette question, François Julien la pose à propos de la pensée chinoise, pensée extérieure à la nôtre, qui suppose qu'on abandonne nos manières de voir. Et cette question, eh bien, en fait, on pourrait la poser à François Julien, à propos de François Julien. Comment abandonner nos cadres, comme le recentrement, le cœur, la coïncidence, pour le lire du dedans? Et de la même manière, on pourrait le faire d'ailleurs pour n'importe quel philosophe. Comment abandonner une certaine grille de lecture pour se plonger dans une autre?
Qu'est-ce qui ne change pas dans le changement? C'est la question d'Aristote. Et donc l'idée qu'il y a quelque chose qui est sous le changement, hypoménon comme il dit, et qui ne change pas, qui est le sous-jacent du changement, substance, sujet, diront les latins. C'est la question effectivement essentielle de la philosophie, à partir de laquelle ensuite est promue, notamment avec l'importance du christianisme, l'idée de subjectivité qui rajoute une couche à tout ça. Mais je crois qu'il y a quelque chose d'essentiel, ce qui fait que ce n'est pas le concept d'identité que je critique, c'est son usage par rapport à culturel.
Par où entrer dans une pensée? La première phrase d'un livre, d'un corpus, est-elle le commencement d'une pensée, par là même une porte d'entrée? Faut-il même procéder par question quand on lit un auteur? Faut-il ranger une œuvre dans un courant pour l'identifier? Le mieux pour approcher François Julien est peut-être de ne pas le cerner lui, démarche trop rigide, mais de cerner par contre, en le lisant, nos manières de faire, catégories, concepts, questionnements, et de voir comment les mettre à l'épreuve.
Merci Géraldine, que nous conseillez-vous de lire? De François Julien ou sur François Julien?
Alors il y a Le cahier de Lerne qui lui est consacré, qui est un très bel ouvrage.
Comme toujours.
Et puis le texte que j'ai signalé, que je trouve très beau, qui est une réédition de 2012 en folio, Entrer dans une pensée, qui est suivi de L'écart et l'antre, sa leçon inaugurale quand il a eu la chaire sur l'altérité au Collège d'études mondiales.
C'est noté, merci Géraldine. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo. Un grand merci à David Pargamin qui a préparé cette émission avec Marianne Chassor, Maud Markiewicz, Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Bruno Gagnère-Fontani qui était la prise de son aujourd'hui avec les équipes locales de France Bleu Haute-Normandie où se trouvait mon invité Michel Suria aujourd'hui. C'était Yvan Moran à la lecture des textes. On se retrouve demain pour la suite de cette série sur la vie secrète des philosophes. Après Althusser lundi et Blanchot aujourd'hui, demain ce sera Saint-Simon, le roi du secret. pour lequel la cour de Louis XIV n'a aucun secret. Vous verrez le roi des potins aussi. Ce sera demain à 10h en compagnie de François Ravier. D'ici là, pour écouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pourrez réécouter l'émission ainsi que toutes les émissions précédentes en ligne ou bien les télécharger, les podcaster pour les garder sur votre ordinateur, votre téléphone portable, le lieu que vous voulez, afin de les écouter où vous voulez et quand vous voulez. L'équipe des Chemins vous donne également rendez-vous sur les réseaux Twitter, Instagram, Facebook, où nous attendons vos remarques et commentaires. On se retrouve demain à 10h donc, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.